Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Fabriquer un consentement, la gestion politique des médias de masse et la traduction intégrale de Manufacturing Consent, essai publié en 1988 par Edward S. Herman et Noam Chomsky. L'ouvrage étudie les grands médias américains non comme de simples transmetteurs neutres de faits, mais comme des institutions insérées dans des structures économiques, politiques et idéologiques. Son objet central est le modèle de propagande, une grille d'analyse qui cherche à expliquer comment certaines informations sont sélectionnées, hiérarchisées et cadrées, tandis que d'autres sont marginalisées. Les auteurs ne soutiennent pas que chaque journaliste obéit à des consignes directes. Ils décrivent plutôt des contraintes structurelles qui orientent ordinairement la production de l'information sans coercition explicite. Fondée sur une analyse de l'économie des médias et sur des études de couverture de conflits et de politiques étrangères, le livre invite à examiner les sources, les intérêts et les absences qui façonnent l'actualité. Il demeure un texte majeur de la critique des médias. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le modèle de propagande comme analyse structurelle des médias, la contribution la plus connue du livre est son modèle de propagande. Herman et Chomsky proposent de comprendre les médias de masse à partir de leur position dans un environnement dominé par de grandes entreprises, des annonceurs, des sources institutionnelles et des rapports de pouvoir. Leur thèse ne réduit pas l'information à un mensonge organisé depuis un centre unique. Elle explique plutôt que des routines professionnelles et des dépendances matérielles favorisent systématiquement les récits compatibles avec les intérêts des groupes influents. Cette approche déplace la question habituelle de la partialité, au lieu de demander seulement si un article contient une erreur ou une opinion partisane. Les auteurs demandent pourquoi certains sujets deviennent visibles, quels faits sont considérés comme crédibles et quels points de vue restent périphériques. Le modèle vise donc les régularités plutôt que les intentions individuelles. Il permet de penser la propagande dans une démocratie formelle, où la pluralité des médias et la liberté d'expression peuvent coexister avec une forte convergence sur les enjeux fondamentaux. Cette distinction entre contrôle direct et orientation structurelle donne au livre sa portée analytique et explique la persistance des débats qu'il suscite. Deuxièmement, les 5 filtres qui orientent la sélection et le cadrage de l'information, le modèle repose sur 5 filtres. Le premier concerne la taille, la propriété et la recherche de profit des entreprises médiatiques, qui les rapprochent des intérêts économiques dominants. Le deuxième est la dépendance à la publicité, source essentielle de financement susceptible de rendre coûteux un contenu hostile aux annonceurs ou à leur environnement commercial. Le troisième tient à l'accès privilégié aux sources officielles, administrations, entreprises et experts reconnus, dont les médias dépendent pour produire rapidement une information réputée fiable. Le quatrième, souvent appelé « réaction négative organisée », désigne les pressions exercées contre des rédactions ou des journalistes lorsque leur couverture déplaît à des acteurs puissants. Enfin, le cinquième filtre était initialement l'anticommunisme, compris comme un cadre idéologique permettant de définir des ennemis et de rendre certaines politiques plus acceptables. Les auteurs indiquent ainsi que le filtrage ne passe pas seulement par la suppression d'un fait. Il agit aussi par le choix des interlocuteurs, le vocabulaire, la place accordée à un événement et le contexte fourni au public. Les filtres ne prédisent pas mécaniquement chaque contenu, mais ils décrivent des incitations cumulatives qui rendent certaines interprétations beaucoup plus probables que d'autres. Troisièmement, sources officielles et dépendances quotidiennes du journalisme institutionnel. Le livre accorde une place décisive à la relation entre les médias et les sources puissantes. Produire quotidiennement de l'information exige des flux constants de déclarations, de documents, de conférences et d'experts disponibles. Les administrations publiques, les grandes entreprises et les institutions établies disposent précisément des ressources nécessaires pour fournir ces matériaux dans des formats facilement exploitables. Cette efficacité opérationnelle renforce leur statut de source légitime. Herman et Chomsky montrent que cette dépendance peut créer une asymétrie durable, les voix disposant de moins de moyens. Les témoins éloignés des centres de pouvoir ou les organisations contestataires peinent davantage à imposer leurs faits et leurs interprétations. Le problème ne réside pas dans le fait de citer des responsables, ce qui est souvent indispensable, mais dans la tendance à traiter leurs affirmations comme le cadre initial de la discussion. La contestation apparaît alors comme une réaction plutôt que comme une source autonome d'analyse. Cette observation aide à comprendre comment un consensus peut se former sans instruction explicite donnée aux rédactions. Lorsque les informations les plus accessibles proviennent des mêmes institutions, les catégories de pensée de ces institutions structurent plus facilement le débat public. Le livre invite donc à distinguer accès à une source, autorité sociale et vérification indépendante. Quatrièmement, victimes dignes d'attention et traitement différentiel des violences. Les études de cas développées par Herman et Chomsky examinent notamment la manière dont les médias américains couvrent les violences politiques, les guerres et les élections en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Leur idée centrale est que toutes les victimes ne reçoivent pas la même attention, selon les auteurs. Les crimes commis par des adversaires géopolitiques des États-Unis tentent à être davantage individualisés, documentés et moralement condamnés que ceux perpétrés par des régimes alliés ou soutenus. Ils opposent ainsi des victimes considérées comme dignes d'attention à d'autres, moins visibles ou traitées avec davantage de réserve. L'enjeu dépasse le simple volume de couverture. Il porte sur le choix des mots, l'attribution des responsabilités, la répétition des images, la place accordée aux témoignages et le degré de contexte historique fourni. Cette comparaison constitue le test empirique le plus marquant du modèle de propagande si les principes humanitaires invoqués varient selon l'utilité politique des événements. La couverture ne peut être évaluée seulement à l'aune de son apparente indignation. Les exemples historiques sont situés dans leur époque. Mais la méthode conserve un intérêt comparé systématiquement des cas analogues en observant les différences de traitement plutôt que de juger un récit isolé. En dernier lieu, une critique exigeante qui demande aussi une lecture historique et méthodique, fabriquer un consentement est un ouvrage dense, fondé sur des archives de presse, des comparaisons de couverture et un grand nombre de références historiques. Cette abondance est une force, car elle ancre la thèse dans des matériaux vérifiables plutôt que dans une dénonciation abstraite. Elle peut aussi représenter une difficulté. Beaucoup d'exemples concernent la guerre du Vietnam, l'Indochine, l'Amérique centrale et le contexte de la guerre froide. Le lecteur doit donc distinguer le cadre théorique général des conclusions attachées à ces dossiers précis. Le cinquième filtre lui-même exige une contextualisation. L'anticommunisme reflète l'époque de la première édition et a souvent été discuté, prolongé ou reformulé par la suite autour d'autres menaces idéologiques. Le livre ne fournit pas une règle qui dispenserait de vérifier les faits, ni un motif pour rejeter automatiquement tout média établi. Sa valeur pratique tient au contraire aux questions qu'il impose, qui possède le média, comment est-il financé, quelles sources dominent, quelles pressions sont perceptibles, quelles comparaisons sont absentes et quels intérêts un cadrage peut-il servir. Utilisé comme outil d'enquête plutôt que comme explication universelle, le modèle encourage une critique plus précise des conditions de production de l'information. En conclusion, fabriquer un consentement s'adresse aux étudiants en journalisme, sciences politiques, communication et histoire contemporaine, mais aussi à tout lecteur qui souhaite évaluer l'actualité au-delà de la seule opposition entre informations vraies et fausses. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une méthode observer les structures de propriété, le financement publicitaire, la dépendance aux sources, les pressions organisées et les cadres idéologiques avant de conclure à la neutralité ou à la manipulation d'un récit. Cette démarche aide à comparer les couvertures médiatiques, à repérer les hiérarchies implicites entre événements et à demander quelle voix reste hors champ. Le livre se distingue des essais généralistes sur la désinformation par son ambition de relier le contenu journalistique à l'économie politique des médias. Il ne se limite ni aux fausses nouvelles, ni aux techniques rhétoriques, il analyse les conditions ordinaires qui rendent certains récits plus faciles à produire, plus légitimes et plus diffusés. Sa démonstration repose sur des cas historiques très documentés, ce qui demande du temps et un effort de contextualisation. Certaines applications doivent être réexaminées à la lumière des transformations numériques et de la fin de la guerre froide. Mais cette limite fait aussi de l'ouvrage un instrument de travail. Il invite à tester ses hypothèses sur des situations nouvelles, plutôt qu'à adopter passivement ses conclusions. C'est un classique critique, utile surtout lorsqu'il nourrit la vérification, la comparaison des sources et le débat argumenté. Si vous souhaitez soutenir Edward S. Herman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.